la rubrique culturelle L'air de rien, présentée par Sylviane sur Radio Alliance Plus.
Bonjour, bonjour à tous. Aujourd'hui, j'ai la joie d'être avec Barbara Gouget. Bonjour.
Bonjour.
Qui est arrivée au mois de janvier comme la nouvelle conservatrice au Musée des Beaux-Arts de Nîmes. Bienvenue.
Merci beaucoup.
Alors, une arrivée voulue, demandée, hein, vous avez candidaté. C'était donc un souhait, un vœu. Vous succédez à Pascal Trarieux qui était là depuis très longtemps. Vous êtes jeune, hein, et donc vous avez plein de projets. Mais vous avez aussi ce bonheur de découvrir un lieu que vous connaissiez peu, en fait. C'était la ville qui vous intéressait, c'était le besoin de changement, c'était quoi?
Alors, c'est un petit peu un mélange de tout. C'est vrai qu'il y avait une vraie envie de changement. Alors, moi, je me plaisais énormément là où j'étais, mais c'était plus l'envie de nouveaux challenges, de découvrir d'autres choses. L'envie aussi d'aller peut-être un peu plus dans le sud.
Plus au soleil.
Et puis, c'est trouvé voilà, qu'il y avait ce poste-là qui a été ouvert.
Opportunité.
Une opportunité. Donc, je suis tout de suite revenue voir le musée.
Hein, oui, tout de même.
avant de postuler, la ville. Et c'est vrai qu'en repassant les portes que je n'avais pas passées depuis très longtemps, ça a été un petit peu une évidence. Le musée est magnifique, les collections très intéressantes et assez riches. Donc, disons que ça comblait un petit peu toutes mes espérances.
Vous auriez été déçue si vous n'aviez pas été retenue.
Évidemment.
Évidemment. Alors, vous êtes là depuis janvier. Alors, vous n'allez pas tout révolutionner en quelques mois. Il faut déjà prendre ses marques. Il faut vous faire connaître de l'équipe. Hein, parce qu'un musée, c'est aussi toute une équipe. Mais vous avez des projets. Et puis, vous êtes arrivée au moment aussi de la contemporaine, hein, de la première édition de la Triennale. Donc, ça fait beaucoup de choses à gérer en même temps.
Beaucoup de choses, beaucoup d'effervescence, ce qui n'est pas pour me déplaire.
Ouais.
Mais oui, d'abord une rencontre avec une équipe, avec des partenaires, puis une équipe au sens large, hein, les personnes avec qui on travaille au Musée des Beaux-Arts et puis tous ceux qui travaillent dans les autres directions de musées. Donc c'est vrai que ça fait beaucoup de monde à rencontrer.
Oui, mais la contemporaine était vraiment l'occasion jamais. L'an dernier, il y avait eu les 30 ans du Carré d'Art où vraiment on essayait de joindre tous les musées ensemble. La contemporaine, c'est vraiment le moment ou jamais.
Alors, la contemporaine, c'est vrai que c'était idéal pour une arrivée. On rencontre 60 personnes d'un coup. On peut se faire connaître de tout le monde. Et c'est vrai que c'est un très beau projet qui unit un petit peu tout le monde autour de l'art contemporain.
Alors, on en parlera dans la seconde partie de l'émission. On va tout de même d'abord parler de vous, si vous voulez bien. Vous me dites un parcours classique, mais un parcours brillant. Hein. C'est-à-dire que l'histoire de l'art, c'était une évidence pour vous?
Alors, pas au départ. Moi, je suis plutôt très manuelle. Donc, j'ai fait beaucoup de dessins, de peintures.
Dans l'art, tout de même. Il y a un œil aiguisé, tout de même.
Et c'est plutôt, en fait, par cette voie-là que j'ai eu envie ensuite de faire de l'histoire de l'art. Donc, je suis arrivée d'abord par la pratique. Et puis, donc, après,
C'est peut-être original, mais c'est peut-être bien. Ça donne un autre regard, un autre œil.
On s'intéresse beaucoup à la pratique et c'est vrai qu'on regarde peut-être les œuvres différemment.
Ouais. Donc, vous êtes de Lyon, donc vous êtes montée à Paris pour l'École du Louvre, hein, y a pas mieux.
J'étais ravie d'être prise à l'École du Louvre.
Oui, c'était... là aussi, c'était pas évident.
De belles années.
Des belles années, dures, hein, tout de même. C'est l'École du Louvre, c'est la référence. Hein.
La première année est coriace. Et puis après, quand on est passionné, c'est beaucoup plus facile. Mais voilà, c'est vrai que... Il faut travailler. C'est tellement c'est un bel endroit. C'est une opportunité.
Moi, je n'ai suivi que les cours en auditrice libre il y a très longtemps, avant que ce soit même rénové, avant qu'il y ait la pyramide. Mais c'est vrai que c'est un endroit magique. Quoi.
Oui, avec des très bons professeurs.
Et alors, peu à peu, vous avez affiné vos goûts. Vous vous êtes dit, tiens, j'aime mieux cette partie, j'aime mieux ça, j'aime mieux... Non, vous aimez tout.
Alors, moi, j'aime tout. Quand on arrive à l'École du Louvre, déjà, il faut choisir une spécialité comme ça. Alors, moi, c'est vrai que j'ai choisi Art de l'Inde et des pays indienisés, un petit peu loin du Musée des Beaux-Arts, qui m'a beaucoup, beaucoup plu. Et puis, au fur et à mesure de mes études, je me suis spécialisée également en période contemporaine. Alors, un, parce que j'ai appris à beaucoup apprécier cette période. Et puis, deuxièmement, c'est vrai que ça m'ouvrirait aussi d'autres portes. Donc, deux spécialités qui n'ont rien à voir.
Bah, c'est bien l'éclectisme, l'ouverture d'esprit. Vous connaissiez l'Inde avant, quand vous vous êtes intéressé à l'Inde ou non? C'était un rêve, un fantasme, hein?
Un peu des deux, il y avait le fantasme. Moi, je m'intéressais beaucoup à tout ce qui est mythologie, donc la mythologie indienne qui est très, très riche. Et puis voilà, d'un point de vue artistique, c'est quand même très particulier. C'est un peu l'envie d'ailleurs. Donc, voilà. Mais je n'ai pas, j'ai pas été déçue et puis j'ai découvert l'Inde par la suite.
Oui, dans un projet qui est assez remarquable. Précisez-nous ce projet que vous avez fait en Inde.
Alors, c'était un projet assez spectaculaire, donc, qui se passait dans un monastère bouddhique à Leh, donc, la capitale du Ladakh, donc tout au nord, dans les montagnes. Et donc, il y avait cette volonté d'ouvrir un musée avec le trésor du monastère. Mmh. Et donc, j'ai participé à l'ouverture de ce musée, donc à l'inventaire, la recherche sur les collections. Donc voilà, au plein milieu du monastère, avec les personnes locales, les ladakis, les moines. Voilà.
Ah, et vous tout étiez vraiment dans, immergé hein, dans tout cela. Et c'était en quelle année, cela?
Alors, c'était en 2013.
2013, il y a déjà un moment, vous étiez toute jeune et ça devait être absolument étonnant.
Une expérience remarquable d'un point de vue professionnel et personnel.
Alors, vous avez fini vos études en 2000?
Alors, moi, en fait, j'ai arrêté entre mon master 1 et mon master 2 pour travailler, pour mettre les pieds à l'étrier. Et puis, j'ai repris un master 2 par la suite en recherche à l'Université de Lyon. Donc, ça a repoussé un petit peu. Donc, j'ai terminé en 2015 en décalant.
Oui, mais enfin, il y avait eu le monastère entre les deux.
Il y a eu
hein,
le monastère et j'ai travaillé au musée Tony Garnier de Lyon. Enfin, là, il y a eu plusieurs expériences qui m'ont permis d'être sûre de moi.
Oui,
je voulais continuer dans cette voie.
Oui, c'est sûr hein, que c'est... On a des goûts, on a des envies, mais on n'est peut-être pas toujours fait pour cela. Donc, il faut confirmer avant de se lancer. Et donc, votre premier poste officiel, c'était...
Alors, du coup, c'était... En tant que responsable de collection, c'était au musée de Briard, au musée de la mosaïque et des émaux de Briard, où là, j'étais responsable de l'ensemble, donc permanent, exposition temporaire, beaucoup de choses. Un musée assez riche, mais avec une toute petite équipe. Et puis par la suite, je suis allée à Montbéliard, où là, j'étais responsable des collections Beaux-Arts, puis directrice adjointe. Voilà, donc deux musées assez extraordinaires également.
Donc, vous vous sentiez prête, là, à candidater pour le musée des Beaux-Arts de Nîmes, avec des projets, avec vos connaissances, avec votre bagage, on va dire.
Alors, je me suis dit que oui, j'avais atteint les compétences qui me permettraient, en fait, de mener à bien différents projets dans cette structure. Et puis, un vrai avantage à la ville de Nîmes, c'est qu'il y a plusieurs musées, donc ça voulait dire aussi... différents collègues avec qui échanger sur des projets communs ou parfois pas. Mais c'est vrai que c'est très enrichissant et c'est quelque chose qui peut manquer dans des villes plus restreintes, tout simplement avec moins de structures, moins d'institutions muséales. Donc,
mais je reviens aussi à la contemporaine qui était vraiment l'occasion ou jamais de créer les liens, peut-être plus rapidement que vous ne l'auriez fait en arrivant hors contemporaine. Vous parliez du textile tout à l'heure. Bon, bah, c'est vrai qu'on pense tout de suite au musée du Vieux-Nîmes ou... création contemporaine, on pense au carré d'art. Donc, allez, hop, vous y allez. Et vous connaissez à peu près tout le monde maintenant? Ça fait que 5 mois que vous êtes là.
Alors, à la ville, je commence à connaître beaucoup de monde. En tout cas, dans tout ce qui est direction muséale, ça y est, je les connais bien. Je suis encore en train de rencontrer les partenaires culturels, que je n'ai pas encore eu l'occasion de tous rencontrer. Mais les rendez-vous sont beaucoup pris pour la plupart.
Alors, on revient, merci de nous avoir résumé votre parcours. On revient à votre première impression quand vous êtes revenue avant de candidater. Vous m'avez dit, j'étais pas déçue de ce musée. Pour vous, quelle est la spécificité ou l'originalité de ce musée? Bon, je rajoute, il a été construit vraiment pour être un musée, donc ça, on le sait. Et puis, ce grand atrium, cette mosaïque, enfin, à vous de parler, je parle trop.
L'architecture, c'est sûr que elle est impressionnante. Elle est impressionnante, c'est très beau. Et puis surtout, ça donne tout de suite beaucoup d'idées. l'espace est vaste, c'est grandiose, c'est haut de plafond, il y a des verrières. Il y a un travail de la lumière, évidemment, qui peut être fait. Bon, il y a une mosaïque assez impressionnante qui peut être surprenante au début dans un musée des Beaux-Arts, mais... voilà,
oui, puis donc il faut contourner. Donc c'est à la fois un bien et à la fois une obligation.
Avantage et inconvénient. Alors il y en a beaucoup dans le musée, avantages et inconvénients. On va essayer de relever plutôt les avantages et de restreindre les inconvénients. Mais c'est même au niveau du grand escalier central, les sculptures qui entourent l'escalier. Je pense qu'on peut être que émerveillé en fait quand on entre dans le musée.
Oui, il y a une atmosphère qui se crée, c'est-à-dire qu'on sait qu'on est là pour du beau.
Exactement, un vrai musée de beaux-arts comme on l'imagine.
Ouais, c'est vrai qu'il y a beaucoup de musées modernes, mais celui-là a le charme du 19e siècle et c'est bien. Mais pour avoir vu beaucoup d'expositions, avoir reçu très souvent Pascal Trarieux, c'est un espace modulable, hein, c'est-à-dire que dans le grand intrium, on peut mettre des cloisonnages, on peut... Non, ce n'est pas votre idée. Ça, c'est le passé.
Alors, on peut le faire. C'est vrai que je pense que, de toute façon, on devait le faire. Il n'y a pas d'espace d'exposition temporaire dédié au Musée des Beaux-Arts. Donc, il faut trouver des astuces. Et c'est vrai que si on peut éviter de trouver des astuces, mais avoir un vrai espace, ce serait quand même l'idéal. Parce que je trouve que cet espace, il est tellement beau, de cet atrium, que de voir à chaque fois le rompre,
oui,
de rompre les perspectives...
Voilà, un peu dommage.
C'est dommage. Alors, bien sûr, à des moments, il faut le faire. Hein, quand il n'y a pas de place ailleurs, on fait ce qu'on peut. Et puis, mais dans l'idée, c'est vrai qu'un espace comme ça, on a envie d'avoir cette perspective, ouais. En fait.
Alors, je sais, pour les avoir visités, qu'il y a des grandes salles de réserve où j'avais vu tout. Je me souviens, enfin, je ne sais plus comment ça s'appelait. Vous savez, on avait protégé les œufs sous une grande bâche hygrométrique.
Bâche d'anoxy.
Voilà. Et à ce moment-là, toutes les œufs avaient été remises dans ces salles de réserve. Et, enfin, d'autres œufs, des bustes. Et c'était extraordinaire. Il y a tout de même beaucoup de superficie.
Oui, oui, oui. Alors, il faut dire que le musée est très riche. Alors, il y a les œufs qu'on voit et puis il y a toutes celles qu'on garde pour différentes raisons. Hein, parce qu'il faut renouveler les œufs. Il y a des œuvres en... plus ou moins bon état, il y a des œuvres plus ou moins importantes. Mais c'est vrai qu'on a beaucoup de choses qu'on peut encore présenter et que je pense que tout le monde ne connaît pas.
Donc l'inventaire est fait, bien évidemment. Donc à vous de choisir, à vous de... C'est là où vous parliez des idées, peut-être réunir.
Oui, alors il faut déjà aller voir toutes les œuvres. Ça prend du temps. Et puis voilà, il y a des œuvres pour lesquelles on a très peu travaillé, donc il y a encore beaucoup de recherches à faire. Bon, c'est le cas dans... presque toutes les structures, et heureusement, c'est ce qui fait le plaisir des conservateurs aussi, pour pouvoir faire un peu de recherche. Donc oui, il y a encore des artistes, des thématiques qui n'ont pas forcément été abordées. Donc il faut aller dénicher tout ça.
Quand on est nommée conservatrice, il y a un certain nombre d'années obligatoires, c'est un contrat de plusieurs années, ou c'est quand vous voulez, c'est...
Alors, conservatrice, c'est très spécifique. Donc, normalement, c'est pas mon cas, je le précise. Donc, il y a un concours qui est fait, le concours de l'INP. Ça, c'est la première voie, celle qu'on connaît. Et puis, il y a une deuxième voie pour les personnes comme moi. Donc, moi, j'ai été contractuelle et donc, moi, j'ai passé une équivalence.
D'accord.
Donc, j'ai l'équivalence avec, qui est pareil, hein, validée par la Direction régionale des affaires culturelles, le service des musées de France.
Oui, oui, il n'y a aucune mise en
cause
de votre
compétence. Le ministère
de la
Culture, ben voilà. Mais du coup, voilà, moi, je suis passée par cette voie-là pour différentes raisons.
Et donc, c'est un contrat de...
Alors là, c'est mon premier contrat. Donc là, c'est un contrat d'un an.
D'un an.
Et après, on renouvelle, voilà. On renouvelle en fonction. Ça, je verrai avec la ville.
Mais bon, on sait très bien qu'un an, c'est très court. Hein. On est déjà à 5 mois déjà pour prendre ses marques. Et puis, les projets, vous avez beaucoup d'idées, mais il faut voir les réalités aussi. Donc,
oui, voilà. Alors de toute façon, c'est évidemment un poste sur lequel j'ai bien l'intention de rester plus longtemps qu'un an. Voilà, il y a l'administratif et puis il y a le reste, c'est des projets longue durée. Un musée, c'est évidemment des projets à long terme. Il y a le quotidien, il y a le court terme malgré tout. Mais voilà, prévoir une exposition temporaire, prévoir un réaccrochage, ça prend du temps.
Ouais. Après, il y a l'idée, puis après, il y a la réalisation.
Il y a la réalisation, il y a les allers-retours.
Il y a les publicités, après, faire connaître. Hein, puisque je lisais dans certains documents qui sont parus dans les médias, qu'il y a encore beaucoup de personnes qui ne connaissent pas le musée des Beaux-Arts. Pourtant, il n'est pas loin du centre. Hein. Il est à 300 mètres des arènes.
Je vous remercie de le dire. On peut insister dessus. Et c'est vrai que je suis assez surprise. On me dit souvent, ah, musée des Beaux-Arts. Ah oui, mais il n'est pas dans le centre. Alors, il n'est pas dans les cuissons.
Mais 300 mètres des arènes, voilà. C'est tout de même pas loin. Il y a tout cet aspect. Mais je pense qu'il est aussi très connu parce que je pense à tous les ateliers pour enfants. Hein. Ça, c'est quelque chose que vous allez maintenir. Les contes pour enfants, hein, qui sont très, très dynamiques aussi. Les concerts, hein, j'ai assisté à de très beaux concerts de danse même. Hein, je me souviens d'Emmanuel Huyn et sur la mosaïque. Donc, c'est tout de même surprenant, comme vous dites, hein, que ce musée des Beaux-Arts n'est pas, comment dire, la... la notoriété qu'il devrait avoir.
Je suis d'accord avec ça. Je pense qu'en fait, il y a aussi un public qui revient très régulièrement. Il y a quand même des personnes qui sont très fidèles au musée des Beaux-Arts. On me dit souvent que c'est le plus beau musée.
Moi, j'adore ce musée.
Mais malgré tout, les gens ne reviennent pas forcément. Il y a des gens, ils me disent ça, c'est des souvenirs qu'ils ont il y a 5-6 ans. Ils ne sont pas forcément revenus.
Pourtant, il y a eu de très, très belles
expositions. Il y a des belles choses.
Il y a eu Cessot, l'exposition Cessot, qui a attiré beaucoup de monde. Chabot, ça attire beaucoup de monde aussi. Oui. Les locaux, enfin, les régionaux.
Oui. Mais je pense qu'il y a encore un public à convertir.
Voilà.
Et bien, écoutez, pour qu'ils viennent jusqu'à
bienvenue
nous.
Bienvenue et beaucoup d'énergie. Alors, on va revenir justement à cette contemporaine, hein, puisque vous êtes là, ça a été fait par une équipe, une direction artistique extérieure, mais vous êtes là depuis janvier. Et la contemporaine, c'est du 22 avril au 22 juin. Donc là, vous la gérez, hein, bien évidemment, avec toutes ces activités. Et pour introduire cette contemporaine, vous avez choisi une musique d'une chanteuse qui est décédée à la fin des années 50, Salia, et qui a été choisie comme fond de la musique de l'exposition « Rien ne me manque hein, » entre Naïla Shermak-Ishti et Baya. Donc nous écoutons Salia et nous revenons après avec vous. Merci. Donc sur Radio Alliance Plus, nous venons d'écouter une des musiques de la chanteuse Salia pour, avec Barbara Gouget, illustrer, si on peut dire, cette exposition de la contemporaine « Rien ne me manque » donc jusqu'au 22 juin au Musée des Beaux-Arts de Nîmes. Donc Baya, vous connaissez ?
Oui.
Qui ne connaît pas Baya, hein ? C'était ces binômes hein, qu'ont voulu les deux directeurs artistiques d'associer un artiste connu.
Oui.
Renommée, Baya, et puis un émergent, Naïla Shermak-Ishti, que vous ne connaissiez pas, vous non plus ?
Non, que je ne connaissais pas.
Ça me rassure, moi non plus. Et là, vous, quelle a été votre première réaction quand vous avez vu l'exposition ? Qui a été montée donc, pour le 22 avril.
Alors, l'exposition, donc, moi j'ai participé au montage.
À l'accrochage.
À l'accrochage, donc j'étais quand même beaucoup sur place. L'artiste était sur place. Donc forcément, on n'a pas du tout la même vision que quand on découvre l'exposition. On comprend, on sait tout de suite un petit peu vers où a voulu aller l'artiste. Puis c'est dense, hein. Il y a une direction artistique qui fait des choix, il y a une artiste qui a ses propres idées. Il y a évidemment le musée qui a quand même évidemment son mot à dire. Donc voilà, il y a toute cette partie-là et c'est vrai qu'au fur et à mesure, quand l'exposition se monte, on est toujours surpris. Parce qu'au début... on trouve, ah là, il y en a trop, là, il n'y en aura pas assez, là, il manque ci. Et au final, je trouve, alors, peut-être que je ne suis pas très objective, hein, mais que tout se mêle assez bien, que c'est assez fluide.
C'est les trois salles donc, du bas, quand on entre
à gauche, du rez-de-chaussée.
Trois salles du bas, et qui forment une très belle entité, moi, je trouve.
Oui. Hein.
On passe de l'une à l'autre. c'est ce que voulait la contemporaine, hein, c'est-à-dire confronter en fait deux générations, deux époques. Bon, là, Baïa est décédée, donc il n'y a pas eu la rencontre entre les artistes. Mais je trouve qu'au niveau des couleurs, au niveau des ambiances, il y a quelque chose qui se passe, quoi.
Il y a quelque chose qui se passe et je pense que c'est aussi beaucoup dû... Alors, donc c'est un duo d'artistes. Il faut savoir que c'est Naïla hein, qui a souhaité exposer avec Baïa.
Oui, c'est son choix.
C'est son choix.
Naïla est toute jeune, elle est née en 96.
Et voilà, elle est sortie de l'école des Beaux-Arts de Marseille en 2021, donc c'est très récent.
C'est tout récent, oui.
Et c'est vrai que ce qui est attachant quand on voit les deux, c'est le lien, en fait, notamment avec les couleurs, avec la représentation féminine, un rapport à l'univers un petit peu magique, à des moments on ne sait plus trop où on est, on a des animaux, on ne les reconnaît pas forcément, un petit peu onirique. Donc ça, c'est vrai que ça rapproche vraiment les deux univers, hein, même si vraiment, quand on voit les œuvres, elles sont très différentes aussi.
Oui, c'est
aussi,
très différent.
Hein.
Moi, j'avoue que la catcheuse, elle m'a un peu surprise dans la première salle. Et puis l'étoile d'araignée dans la deuxième. Oh, c'est loin de Baïa et en même temps, ça va ensemble.
En même temps, c'est très lié. Il y a un côté très décoratif chez les deux. Hein, les deux artistes, elles ont vraiment cet aspect-là. L'aspect vraiment très, très coloré qui est là aussi. La représentation féminine, c'est pas... Même chez Baïa, on dit souvent c'est très joyeux. Je pense qu'il faut observer d'un peu plus près ces femmes, leur regard, leur attitude... Et en fait,
moi, j'ai été très frappée par les cages, tout de même. C'est assez révélateur, tout de même, hein, les cages pour les oiseaux, mais aussi pour les femmes. Quoi.
Non, elles sont... Voilà, c'est un univers en fait, particulier, et les deux se comparent assez bien. Le côté un petit peu femme combattante, qui ressort notamment dans le premier espace. Et puis, le travail sur la couleur, donc quand on parcourt les espaces, il y a aussi un travail au niveau de la couleur des murs, tout simplement. Avec des couleurs très, très franches. Et ça, c'est des couleurs également qui ont été choisies par l'artiste. Je trouve ça assez révélateur aussi des deux. Parce que voilà, donc c'est violet et vert. Et en fait, ces deux couleurs, on les retrouve dans leurs travaux à toutes les deux.
Et c'est une très belle réussite parce que quand on entre, avant de voir les œuvres, on voit les murs. Et c'est vrai que ça accroche tout de suite. Quand on entre dans... Je disais tout à l'heure, on entre dans du beau, mais là, on entre dans l'art, quoi. On entre dans la couleur. Quelles sont, puisque vous avez observé, les réactions des visiteurs? Ce sont des gens qui connaissent. On sait que le week-end d'ouverture, comme tout était gratuit, il y a eu beaucoup de monde. Les gens sont surpris, choqués, restent longtemps.
Alors, les gens sont surpris de manière assez positive. Nous, on était très satisfaits parce que c'est quand même un pari de mettre de l'art contemporain partout. Hein. Musée des Beaux-Arts, il y a quand même les gens qui viennent là pour voir des choses classiques.
Enfin, il y a eu l'exposition La saga Skłodowski. Bien sûr. On était dans le contemporain tout de même.
Même c'est quand même différent et c'est vrai que voilà, parfois il y a des gens, ils ne viennent pas là pour voir l'art contemporain.
Voilà. Bon, on peut avoir des idées un petit peu fermées. Bon.
C'est ça. Et finalement, ça matche assez bien. Bon, Baïa. Ça plaît énormément. Ouais. C'est très coloré, c'est vivant, c'est accessible, même si je pense que ça mérite aussi des visites guidées et voilà, des informations, parce que parfois on reste un petit peu trop sur la surface, le superficiel, et on ne creuse pas assez loin. Et puis, les œuvres de Naïla, alors, il n'y a personne qui apprécie d'autres moins. Par contre, c'est spectaculaire. Il y a quand même une vraie confrontation des œuvres assez gigantesques. Voilà, des femmes qui sont plus grandes que nous, hein, on arrive, elles sont assez imposantes. Des natures, voilà, une araignée, une toile d'araignée géante.
Oui, ça interroge.
Ça interroge, ça surprend, ça interroge. Y a des gens passent du temps, ils observent quand même beaucoup. Et étonnamment, alors pour ceux qui connaissent bien Baïa, c'est un peu surprenant, mais on a beaucoup de personnes qui ne savaient pas dissocier les deux artistes.
Oui. Moi, je vous dirais que j'étais revoir les cartels. À une ou deux reprises, j'étais revoir les cartels parce que j'avais un doute. Donc, vous voyez, je confirme ce que...
Ouais. Donc, c'est aussi intéressant parce que c'est des artistes qui ne se connaissent pas, qui n'ont pas du tout travaillé les mêmes matériaux. Et finalement, il y a des liens tellement forts qu'il y a quand même un doute.
Malgré la différence de génération, hein, c'est bien le but. Hein, la fleur et la force,
tout à fait.
Les jeunes et les plus âgés. Moi, je tourne beaucoup sur si c'était des femmes, et vous parliez tout à l'heure de votre premier amour de l'Inde. Moi, je trouve qu'il y a chez Baïa aussi beaucoup d'influence. Là, j'ai la page de, avec ses profils égyptiens, mais ça fait penser aussi à la Mésopotamie, à la Perse. Enfin, je trouve qu'il y a, il y a un mélange. Alors qu'elle était, elle a été analphabète un très longtemps, je trouve ça extraordinaire, ce côté comme ça, émotionnel ou connaissance.
Il y a vraiment beaucoup d'influences chez Baïa. Mmh. Alors, forcément, il y a les influences algériennes, il y a les influences de Kabylie. Sa mère adoptive s'intéressait beaucoup à tout ce qui est motif islamiste. Elle a fait de la poterie, elle a été un peu dans le sud de la France. Donc, c'est quand même assez riche. Mmh. Elle a développé un univers hein, bien à elle, mais c'est vrai qu'elle a eu différentes influences par sa famille, sa première famille, sa famille adoptive, les personnes qu'elle a rencontrées.
Oui, une vie difficile.
Une vie difficile.
Des enfants, un mari qui lui interdit après, enfin où elle arrête tout ça.
Alors là, il y a différents points de vue.
Mais bon, là, on va pas. C'est pas une émission sur le féminisme, mais Baïa est tout de même un très bel exemple, hein, justement, j'allais dire, de résilience ou de force. Hein,
complètement.
Une force féminine. Alors, vous parliez au début, puisque je rappelle à nos auditeurs, Barbara, vous êtes arrivée qu'au mois de janvier, donc ça ne fait pas longtemps, que vous avez plein de projets. Et dans ces projets, j'ai l'impression que vous parliez des réserves, vous parliez des thématiques. J'ai l'impression que la femme, ça va être un de vos thèmes, non?
Alors, la femme va être un de nos thèmes. Ça va être le premier thème que je vais aborder en tant que conservatrice. Avec la préparation d'un nouvel accrochage, alors pas une exposition temporaire, vraiment accrochage des collections après l'exposition, quand elle sera terminée, parce que nous, on prolonge cette exposition donc de la contemporaine jusqu'au mois d'octobre.
Ah, je ne savais pas, vous voyez. Donc jusqu'en octobre, on voit Baïa et Naïla.
Exactement, d'accord. On la prolonge après, et par la suite, du coup, on change un accrochage avec la thématique dédiée aux femmes.
Alors, vous aurez le temps de prendre un peu de vacances, parce que je pense que ça a été tout de même très dense hein, depuis que vous êtes arrivée. Et puis, on se reverra en octobre, alors si vous voulez bien.
Avec grand plaisir.
Pour valoriser ce musée des Beaux-Arts que des Nîmois, que trop de Nîmois ne connaissent pas encore. Merci beaucoup.
Merci,
à
vous.
Bientôt.
À bientôt.